Kiosque Magazine. Bon matin, chers auditeurs. Il est présentement 9h en ce vendredi 15 mai 2015. Bienvenue à votre émission hebdomadaire de Kiosque Magazine, édition culture. Je suis Geneviève Patterson en compagnie de mon cher co-animateur Charles Roy. Bon matin, Charles.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, oui. De quoi est-ce qu'on parle ce matin?
Aujourd'hui, je vous parle de Jaune et de Bougat qui sortent tous les deux un nouvel album. Je vous parle aussi des chantiers du Carrefour international de théâtre qui est en marge du festival à Québec.
Okay.
Je vous parle aussi des Grands Ballets canadiens qui font leur production. Je crois que c'est leur dernière, La jeune fille et la mort.
Oui.
Aussi au cinéma, le documentaire Le plancher des vaches, réalisé par Émile Procloutier. Et finalement, je vais vous parler en dernière minute, de Philippe Soldevilla, qui est un muraliste qui dessine des murs. Alors, voilà.
Intéressant. Pour ma part, je vais parler d'illumination, de plusieurs nouvelles en bref aussi, de sorties à venir, d'endroits à visiter, de petites filles afghanes, d'hipster, de films, de livres. Bref, je parle de tout. Bonne émission, tout le monde.
Jaune a 10 ans. Je ne sais pas si tu connaissais ça, Jaune.
En fait, moi, je connais l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland, qui est un album incroyable. Est-ce que c'est le même
non,
album?
Non, ce n'est pas la même chose. Mm-hmm. C'est le groupe qui s'appelle Jaune.
Okay.
Au début, il était 5, maintenant, ils sont rendus 3.
Okay.
Et c'est un groupe originaire de Sherbrooke. Et Karine Tremblay, dans La Tribune, le journal Sherbrooke, titre son article « Le groupe Sherbrookois Jaune lance son nouvel album ». Bah, ça le mérite d'être clair.
Ouais.
C'est paru hier, le 14 mai. Un âge vénérable, 10 ans, pour un groupe de musique. La dizaine au compteur ne pèse pas sur les épaules du trio Sherbrookois. L'avenir est même plus jaune qu'avant. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoutez bien. Tous les trois, on était amis bien avant que Jaune existe. Entre nous, il y a ce lien presque fraternel. On a fait tous les temps, mais on s'aime quand même. Depuis nos débuts, notre vie a changé. La réalité musicale et celle de l'industrie ont changé aussi. On a eu à se re-questionner. En 2013, c'était l'année des bilans. On s'était dit que si on continuait, il fallait que ce soit pour les bonnes raisons, explique la chanteuse Stéphanie Blanchette. Le quinquette, devenu trio, avait alors enregistré le mini-disque « L'espace des jours » sans savoir qu'il y en aurait un autre, parce que l'album dont je vous parle s'intitule « L'espace des jours 2 ». Très original. Ça a été lancé samedi, une semaine. Et ça compte 8 titres qui s'inscrit en parfaite continuité avec le précédent album. C'est une suite logique. Même la pochette est assez semblable. On a pu expérimenter des choses en spectacle. Notre formule à 3 est maintenant complétée et assumée. Raph Rioux est un créateur prolifique, une vraie machine à écrire. Il avait des chansons en banque et on avait envie de poursuivre sur la même lancée. D'ailleurs, la première chanson s'amorce avec la même mélodie vocale que la dernière chanson de notre précédent disque, explique celle qui, en plus d'être la voix de Jaune, enseigne à des jeunes musiciens du monde. Après avoir parlé d'itinérance à Montréal à travers Franck le Quêteux, le groupe revient sur le sujet avec « Le long de la Saint-François », un texte qui raconte la réalité d'un sans-abri à Sherbrooke. On a eu la possibilité de participer à la nuit des sans-abris de Sherbrooke. On a vu que ça existait ici également, explique la chanteuse qui se reconnaît un peu, ouais, elle, dans la chanson « J'ai changé d'idée ». Elle évoque l'amour de la musique, la place que ça prend dans nos vies. À 34 ans, je l'assume davantage. Mon rôle à moi me semblait moins défini avant, même si la musique a toujours fait partie de ma vie. Voir des spectacles me fait un bien fou. Et j'ai réalisé qu'en faisant de la musique, je peux aussi apporter ce bien-être aux autres. Et leur fait voir la vie en jaune. C'est ainsi que se termine l'article. Le spectacle de lancement se déroule demain à 20h30 à la salle Le Tremplin. L'entrée est 10 $ et bien, ça inclut aussi l'album.
Cool.
Donc, une autre raison de se déplacer.
Super, merci.
Alors, Jaune,
Charles,
on surveille ça.
Donc, toujours en musique, Maestro prend le contrôle. Mais de quoi? Eh bien, de la place des festivals. Depuis hier, les passants pourront prendre le contrôle des 157 fontaines de la place des festivals à la manière d'un chef d'orchestre et faire bouger les jets d'eau au rythme de la musique.
Wow!
Incroyable, hein? Oui. Il faut y aller, il faut essayer.
OK.
Donc, c'est un article de Camille Gaillard dans le 24 heures d'hier. Donc, Maestro permet de contrôler le volume de la musique et l'intensité de plus de 150 fontaines de la place des festivals grâce à une baguette et un lutrin équipés de détecteurs captant l'amplitude et l'intensité du mouvement. Le chef d'orchestre va pouvoir contrôler les fontaines de la place des festivals et le volume de la musique. On pouvait déjà contrôler les fontaines à distance, mais il fallait trouver une manière ludique et accessible de le faire, a précisé Félix Dagenais d'Atomic 3, qui a mis au point Maestro. Le public va pouvoir ainsi gérer 157, comme on disait, des 235 jets d'eau de la place, dont certains peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur. La programmation musicale prévoit quelques-uns des morceaux de musique classique les plus connus, tels que les Toréadors de Bizet, la Valse des fleurs de Tchaïkovski et la symphonie numéro 5 de Beethoven. C'est vraiment comme si les fontaines étaient l'orchestre et derrière, on a installé un écran géant pour faire comme s'il y avait un public. Hmm. C'est ce qu'explique Marie Lamoureux, conseillère aux communications au quartier des spectacles. L'activité est gratuite et elle est proposée au public à des heures spécifiques et en soirée du jeudi au dimanche, donc c'est le bon temps pour y aller, afin de profiter des effets lumineux. Maestro va être installé jusqu'au 31 mai et en rappel du 6 au 10 août.
Wow, quelle bonne idée.
Quelle belle idée, oui.
Yevame Paya de Bugat. Sur la pochette de son nouveau disque Neo Reconquista, mariant plus que jamais la musique pop orientale aux influences latino-américaines de Bugat, comme vous avez entendu, le rappeur québécois brandit fièrement son sarap tel un étendard. Cette couverture de laine rayée, dont l'origine se perd dans la nuit des temps précolombiennes, est devenue un symbole identitaire pas seulement mexicain, mais panculturel. Les pays voisins se sont appropriés le sarap et les citations mexicains eux-mêmes ne savent pas trop d'où elle vient, ce que ça représente, ni quelle technique de tissage particulière elle exige, suggère Bugat. C'est dans le droit, c'est Yves Bergerat qui nous parle de ce nouvel album. On en a parlé l'édition précédente de Bugat.
J'en ai parlé un peu. On aime beaucoup Bugat, c'est pour ça. Et puis, c'est à ton tour, Charles, d'en parler. Ton article est intéressant. Il amène d'autres points.
Oui, exactement. On parle de sa quête identitaire. Donc, cet article-là, ce titre, S'appartenir, selon Bugat, publié le 9 mai. Je poursuis donc. Ce sarap, ce morceau de tissu, apparaissait déjà sur la pochette d'Eldorado Sunset, disque par lequel Bugat, né d'une mère mexicaine et d'un père paraguayen, embrassait ses racines. Écrit entièrement en espagnol, l'album fut couronné de 2 prix Félix en 2013. Il a aussi ouvert les portes du Mexique et du sud des États-Unis, où Bugat a donné une 60aine de spectacles au cours des 2 dernières années. Ça représente mes origines, mais aussi la recherche d'une identité qui est le thème central de mon œuvre. Ce faux drapeau, à l'instar des thèmes abordés et du métissage musical de son disque, joue en réalité avec l'idée des frontières poreuses, artificielles, résultantes provisoires des guerres et des conquêtes territoriales. Le titre du disque fait d'ailleurs référence à la période de reconquête des droits civiques en Amérique latine au siècle dernier. Le propos est engagé, mais ce n'est pas un truc politique ancré dans un territoire précis, dit-il. Neo Reconquista s'efforce d'abord d'avoir une vision plus large, une pertinence globale par rapport à ce qui se passe mondialement. Il s'intéresse aussi au conflit interculturel Nord-Sud. Dans le titre Los Tabernacos, le morceau clin d'œil à Elvis Graton, le rappeur explore la relation entre les Québécois et le tourisme du tout inclus, tout en faisant des liens avec les Snowbirds, l'indépendance du Québec, les rivalités historiques entre les Franco et les Anglo. Un propos humaniste? L'artiste se trouve trop pessimiste pour cela. Je ne pense pas dénoncer et je ne cherche à convaincre personne, je suis de nature réaliste, alors je me contente de prendre des photos, entre guillemets. Pour aller au lancement de son album, c'est le 22 mai à 19h30 au Centre national des arts. Le disque Neo Reconquista est dans les bacs. Alors Geneviève, on s'en va en festival, c'est ça?
Oui.
Tu nous parles de...
C'est le premier, c'est un nouveau genre de festival, c'est le premier Webfest à Montréal.
Okay, qu'est-ce que c'est un Webfest?
Un Webfest, c'est le festival des web-séries, parce que la web-série a le vent dans les voiles. Et justement, son premier festival va avoir lieu aujourd'hui et demain, le 16 mai, à Montréal. C'est un article qui est apparu hier dans le 24 heures par Marie-Hélène Chartrand. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que dans l'article, on voit une image d'une scène de la web-série « Les berges » que les internautes peuvent suivre sur la toile. Ainsi, les amateurs de web-séries vont pouvoir découvrir des créations d'ici, mais aussi d'ailleurs, parce qu'au programme, il y a des projections, des panels de discussion et le gala va être animé par la comédienne Isabelle Paradis et Angelo Cadet. Ils ont reçu environ 130 projets de partout dans le monde et ils ont sélectionné les meilleurs. C'est ce qui a expliqué un des organisateurs, M. Simon Côté, à Marie-Hélène. Celui-ci baigne dans le milieu depuis un certain temps, ayant lui-même produit la web-série Manigance et créé le portail kebweb.tv. Alors ça, c'est très bien. Kebweb avec un K, web.tv. Et c'est un site où on peut justement voir des séries québécoises, peu importe où on se trouve dans le monde. Alors, parmi les web-séries qui ont été sélectionnées, nommons Les Jaunes, Michael en sacrament, excusez-moi, c'est vraiment le nom de la série, J'aime pas, Project M et Quart de vie. Il y a un sondage Net Tendance réalisé en 2013 qui révèle que près du quart des Québécois regardent des téléséries, des émissions en ligne ou téléchargent des films. De plus, parmi les activités de divertissement en ligne, la web télé arrive en quatrième position derrière les jeux et les vidéos en ligne et le téléchargement de musique. Par ailleurs, les jeunes de 18 à 34 ans sont les plus friands, oui, de web télé, comme près d'une personne sur deux en consomme dans cette catégorie d'âge, donc à peu près 50 %. Pour plus d'informations, on va sur le site web webfestmontréal.ca. Et rapidement, je tiens juste à mentionner que sur la même page 24 heures, on annonce que Claude Robinson va être honoré. Le créateur va recevoir demain la médaille de l'Académie royale des arts du Canada, laquelle est attribuée chaque année à un individu ayant contribué de façon exceptionnelle au développement des arts au pays.
Wow.
There is this place underground, a place you should know. Some crooked folks doing crooked things on the low. I wanna go.
C'était Speakeasy de Anya Marina. Et parlant de parler, tu nous parles de théâtre, Charles.
Oui, un acte de parole. C'est dans le cadre du 16e Festival international de théâtre à Québec, il y aura les chantiers du Carrefour. dans
le fond. Qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est ça. Éric Moreau dans le Soleil va t'en parler.
Oui.
c'est un article publié le 5 mai dernier, « Les chantiers du Carrefour, une boîte à surprises ». Les chantiers du Carrefour de théâtre de Québec, c'est comme une boîte à surprises. On ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Même en sachant, en gros, que c'est les créateurs... Que les créateurs viennent y présenter des œuvres qui sont encore en construction à des degrés divers et dans toutes les déclinaisons de genre. Et cette 8e édition risque d'être, encore une fois, fort étonnante de la création multidisciplinaire de Nicolas Jobin au laboratoire du projet Einstein de Anne-Marie Olivier et Véronique Côté, avec une équipe qui comprend un scientifique. Ces véritables incubateurs à projets que sont les chantiers permettent aux créateurs d'explorer, se mettre en danger et se péter la gueule. Mm-hmm. En public. Sa popularité auprès de ceux-ci n'en dément pas puisqu'ils ont soumis 40 projets à cette 8e édition. La nouvelle équipe en a retenu une douzaine. Deux d'entre eux ont déjà obtenu une garantie de diffusion pour la prochaine saison de premier acte. Il s'agit de Madame G, de Maxime Beaugrand, Beauregard Martin et Épicerie de Jean-Denis Baudouin. Madame G, qui fera l'objet d'une mise en lecture, se veut un théâtre documentaire sur une infatigable dame de la nuit qui a géré les beaux jours de la grande Hermine, Thérèse Drago pour ne pas la nommer. Épicerie, ce texte, lui, est gagnant du concours d'écriture du Carrefour de l'an passé et raconte l'histoire d'un gars qui rentre dans une épicerie pour s'acheter de la gomme et qui en reste prisonnier.
Oh oh.
Explique l'auteur qui s'est inspiré des lectures de Marx et de la Bible. Bon, ça l'a mis jusque-là. Étonnant, ben, ouais. Autant que Pan tout gému de Nicolas Jobin, croisement entre Billy Elliot et Youngblood sur un gars qui rêve d'être joueur de la LNH et qui se ramasse danseur de Budo japonais. Presque une autofiction, précise Jobin. Il doit avoir une vie extraordinaire. quand on vous disait, une véritable boîte à surprises, il y a même un projet qui amalgame slam et conte. Il s'agit de Marcante de Mélissa Desbiens et Thomas Langlois. Notons aussi que le théâtre de la Cigogne, ce sont des Acadiens, vont présenter en résidence, seront en résidence pendant une semaine à ce festival et présenteront le fruit de leur travail. Les chantiers se déroulent du 23 mai au 7 juin. Les laissez-passer sont mis en vente 45 minutes avant le début de la représentation, c'est sous contribution volontaire. Et dans le cadre de ce Festival international de théâtre, il y a les Carrefours, mais il y a aussi plein de spectacles. J'ai regardé la programmation ce matin avant d'entrer en onde. C'est vraiment une belle programmation. Il y a de quoi être jaloux pour les autres festivals de théâtre. Notons la présence du spectacle Oxygène, qui a gagné en 2014 le prix de la meilleure production Montréal par les associations de critiques. C'est présenté le 2, 3, 4 juin à la caserne Dalhousie. Oui, j'ai mal prononcé le nom de la caserne. Eh oui, c'est caserne Dalhousie, bien oui. Dalhousie. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un
si
H.
Simple. La vie est simple, Charles. Des fois, c'est nous qui se la compliquons soi-même.
Merci, Geneviève. Alors, tu nous parles, Geneviève, d'une sortie en cinéma. Est-ce que c'est ça? Ou...
En fait, c'est une sortie en photographie, une exposition de... Oui, de Horst, l'homme qui a fait la photographie de mode un art. C'est dans Le Devoir du 13 mai dernier. Et puis, c'est écrit par Caroline Monpetit en art visuel. Alors, comme Cecil Beaton ou Irving Penn, il a fait de la photographie de mode un grand art. Sous ses doigts, la robe et le modèle devenaient tableaux. Il était l'artiste. Le photographe de mode Horst Bormann, allemand d'origine et naturalisé américain en 1942, est au cœur de cette magnifique exposition qui a été inaugurée mardi dernier dans les locaux du musée McCord, montée par le Victoria et Victoria and Albert Museum de Londres, l'expo qui entame ici une tournée internationale, présente également 8 robes de haute couture signées Chanel, Lanvin ou Molineux pour faire écho aux photographies qui ornent les murs. De la photographie en noir et blanc des débuts au plus récent cliché couleur, en passant par une exposition de nus masculins rarement exposés en public, l'expo traverse le 20e siècle avec quelques éclairs de génie. Horst y capte l'effervescence de l'avant-garde, mais aussi la mode du prêt-à-porter qui a suivi. Alors que les ateliers de haute couture doivent fermer leurs portes en Europe durant la guerre, l'industrie connaît un nouvel essor aux États-Unis. Certaines photos présentent des mannequins de mode de façon plus traditionnelle, mais d'autres, comme le corset Maine-Bocher, dégagent un charme puissant. Cette photo, la dernière de l'avant-garde, montre une certaine Madame Bernon portant un corset lacé de rose. Elle a depuis largement inspiré les tenues de la chanteuse Madonna, qui l'a même exposée lors de ses spectacles. Horst est comme un peintre. Il faisait différents croquis de son projet avant de prendre la photographie. On peut donc voir comment s'est construite la photo du dit corset. Alors, l'exposition est présentée jusqu'au 23 août 2015. Toute une salle d'expo est par ailleurs consacrée à la période surréaliste du photographe, qui était un grand ami de Dali, avec qui il a par ailleurs travaillé et dont on sent l'influence ici. Merci.
Avant de nous quitter pour la pause, j'ai le temps de vous parler du festival Terra Incognita. C'est au Centre d'art La Chapelle et, dans le fond, c'est un festival de rock. C'est à Québec et ça se déroule sur 2 jours, le 16 et le 17 mai. C'est toute la journée. D'ailleurs, si vous achetez des billets, vous achetez des billets pour toute la journée. Ça débute, les portes ouvrent à 15 heures. Et pour vous donner une idée de la programmation vite, le 16 mai, il y aura, entre autres, Elephants of the Scotland et Anneke Dokken. Le 17 mai, vous pourrez voir Acapa da Capo. On se laisse le temps d'une courte pause et on vous revient avec encore plus de culture.
À tout de suite.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
On poursuit donc
en danse.
C'est les Grands Ballets canadiens qui nous proposent la pièce « La jeune fille et la mort » de Stéphane Tosse, le grand chorégraphe. Un texte de Frédéric Doyon dans Le Devoir, paru le 11 mai, « Vie et mort, un cycle en ballet ». La création annuelle des grands ballets arrive en toute fin de saison et porte la signature de Stéphane Tosse. Le talentueux chorégraphe allemand a déjà livré « Rêve » en 2012 et « Searching for Home » en 2011 à la compagnie. Voici maintenant « La jeune fille et la mort ». Ce n'est pas la musique de Schubert du même nom qui a motivé cette création en premier lieu, mais l'envie de traiter du thème de la mort. « La mort peut danser », c'est le titre que j'avais en tête avant de commencer à travailler la pièce, confie Stéphane Tosse. Pour lui, on repousse trop souvent cette réalité à l'extérieur du cercle de la vie, alors qu'elle en fait partie. Sa pièce met donc en scène cette dualité essentielle au cœur de toute chose, le bien et le mal. Lors de la rencontre avec Le Devoir, il étale d'ailleurs une série de dessins où la forme circulaire revient sans cesse exposer cette dualité. Cercle de saison, cercle de la respiration, où l'inspiration est indissociable de l'expiration. « Pour que quelque chose naisse, il faut que quelque chose meure », dira-t-il en cherchant ses mots d'anglais pour tenter d'organiser son esprit en ébullition. Des cercles concentriques illustrent aussi l'autre repère important de sa pièce, les 4 éléments, eau, terre, air et feu, qui irriguent l'univers de leur énergie propre. « C'est pour moi ce qui représente le plus la vie », explique-t-il. Il ne s'agit là ni d'esquisse de son décor, ni de croquis chorégraphique, mais plutôt d'un drôle de cartographie des idées qui nourrissent sa création au croisement de la psychologie humaine et de la cosmogonie toute personnelle. Mais si Stéphane Tosse s'enflamme en analysant ainsi sa jeune fille et la mort, il insiste. Ce n'est pas vraiment une histoire, c'est plutôt abstrait. Ces repères symboliques que le public saisira selon sa propre sensibilité sont surtout essentiels pour transmettre aux danseurs l'architecture de sa chorégraphie. La musique de Schubert viendra finalement clore la pièce, mais dans sa version pour orchestre à cordes de Gustave Mahler. Le reste de la trame se compose de plusieurs pièces contemporaines, parmi lesquelles celle de Philip Glass tisse un fil rouge musical. La jeune fille et la mort, donc, sera présentée au Théâtre Maisonneuve du 14 au 23 mai.
Merci, Charles. C'était J'allais dire Grooving All Night, tellement Charles et moi, on est dans la chanson, on dansait, on tapait des mains en studio. Eh bien, c'est Talking After Good Love d'Electro Deluxe. Et parlant de luxe et d'illumination, pour le 375e anniversaire de Montréal, notre beau Jacques Cartier va être illuminé. Quelle belle initiative!
Vraiment. Partout dans le monde, on reconnaît les ponts par leur structure, leur architecture. C'est une signature de la ville. Puis
tout
là,
à fait.
Ça va mettre en valeur cette architecture.
Exactement. Et c'est un article qui a été publié dans le Nightlife Magazine le 11 mai dernier en référence à celui de La Presse, un article de Denis Lessard de la même date, le 8 mai dernier. Donc, c'est le comité organisateur des activités du 375e qui aimerait vraiment voir ce projet se réaliser. Et ils ont en tête d'illuminer le pont Jacques-Cartier. Il y a de très bonnes chances que ça se fasse et on le souhaite. Et toujours selon l'article de La Presse, la facture de ce projet lumineux est estimée à 22 millions de dollars. Malgré les belles promesses de la part des deux paliers gouvernementaux, ça semble difficile. Les 60 millions, attendez, là, je suis plus certaine de mes chiffres parce que la page occupée a coupé. Non, c'est vraiment estimé à 22 millions. Mais les 60 millions qu'avait prévu le provincial pour le 375e de la métropole n'est vraisemblablement pas possible. L'équipe de Couillard ne s'est pas non plus encore avancée sur le montant qui sera versé au comité. Alors, la waiting game est alors commencée. Du côté d'Ottawa, Harper n'a même pas mentionné une contribution quelconque. Le fédéral se défend en mentionnant qu'une partie du montant loué par la Fédération canadienne, soit 210 millions, va servir au 375e de Montréal. Mais on ne semble pas trop s'exciter à ce sujet. En tout cas, on espère vraiment que c'est Moment Factory qui aura le contrat pour le pont Jacques-Cartier, car peu importe le budget, on n'est vraiment pas inquiet de quoi ça va avoir l'air. Et selon le gouvernement Marois, elle dit que le ministre des Finances... sous le gouvernement Marois, le ministre des Finances, Nicolas Marceau, s'était engagé à signer un chèque pouvant atteindre 120 millions de dollars pour des projets porteurs permettant de contribuer au rayonnement de la ville. Je vous invite à aller sur le site de La Presse pour plus de détails. Vraiment, grosse question de budget dans ce que c'est. Pourtant, ce ne sont que de simples lumières, mais reste que c'est une structure assez imposante. Mais tout de même, ça va être quelque chose. Rapidement, parce qu'il me reste du temps avant la musique, il y a des sandwicheries montréalaises à découvrir ou à réessayer. Ça a été paru dans le Nightlife le 5 mai dernier. Il y en a 10 par Sophie Ginoux, mais je vous en parlais de quelques-unes. Évidemment, la boucherie Slovénia sur le boulevard Saint-Laurent, un classique avec ses délicieuses charcuteries, saucisses et choucroute. Le dépanneur Le Pick-up, qui est plus qu'un dépanneur, il y a vraiment de tout. Il y a le club Chipotle à essayer. Le Bocadillo, restaurant vénézuélien qui propose un sandwich, notamment au porc effiloché et au rôti de bœuf, qui sont des exemples très appréciés. Café Vasco de Gama au centre-ville, nouvelle aile alimentaire aussi revisitée de l'aéroport de Montréal, des sandwichs, des panini, des wraps et des burgers, un endroit assez riche. Le Titanic dans le Vieux-Montréal, des bons petits plats classiques. Le Fechi, nourriture du monde, Autriche, Arabie Saoudite, Colombie, États-Unis, à essayer. Le Fiesta, avocat haricot noir chez Darvieille. Miam, j'ai faim, là. Et le Xavier l'Artisan, et cela demeure un glacier, mais le propriétaire s'est associé à la chef du restaurant Atelier d'Argentine pour enrichir son offre de produits fins et surtout de prêt-à-manger invitant entre les murs de pierre de taille de l'endroit. Nous avons apprécié les deux sandwichs que nous y avons dégustés. C'est vraiment à découvrir.
Merci. Est-ce que tu as faim?
Oui.
Laissez-moi maintenant vous parler du Plancher des vaches. Mm-hmm. C'est un documentaire qui est sorti dans nos salles il n'y a pas très longtemps, un documentaire québécois. André Duchesne, dans La Presse, nous en parle. Le Plancher des vaches, une adolescence à la campagne, paru le 7 mai. Anaïs Barbeau, Lavalette et Émile Proucloutier assument. Leur documentaire « Le plancher des vaches » se veut un regard positif, sans être complaisant sur la vie à la campagne, mais surtout sur l'avenir dans le monde rural. Et qui dit avenir dit, on l'aura compris, jeunesse, ou pour être encore plus précis, relève. Ici, cette relève s'exprime et s'enthousiasme, mais s'interroge aussi et se braque à travers trois personnages de 15 et 16 ans, Pascal, Raphaël et Céleste. Comme tous les jeunes de leur âge, comme tous les adolescents de la ville, ces trois individus, comme leurs camarades de classe, possèdent des téléphones intelligents, écoutent de la musique à satiété, vivent gauchement leurs premières amours et cultivent des relations moitié roses, moitié épines avec leurs parents. Mais à la différence de leurs contemporains, ils se lèvent au petit matin pour faire vivre la terre et en vivre. Histoire épique s'il en est. Histoire épique faite de la noblesse du geste répété chaque jour, de l'effort des muscles tendus, de l'apprentissage auprès d'un maître, de l'ingratitude parfois blessante de la combinaison essai-échec. On applaudira ici l'originalité du propos. Récemment, on aura vu quantité de documentaires québécois qui, fort valables, nous ont présenté des adolescents hésitants à la croisée des chemins. Ici, ils sont déjà dans le bain jusqu'au cou. La direction photo est à l'avant, ce que ce soit dans la captation du dur travail campé par les paysages splendides ou dans l'intimité de l'apprentissage. Le tout est accompagné d'une trame sonore signée Viviane Audet et Robin-Joël Cool, toujours juste. Le plancher des vaches, documentaire d'Anis Barbeau, Lavalette et Émile Proucloutier, est d'une durée d'une heure 15 et est présenté dans vos salles maintenant.
Hipster des années 50, c'est le titre d'un article qui est paru aujourd'hui dans le journal Métro dans le cahier Week-end. Mais qu'est-ce que c'est un hipster des années 50? Ça existait dans ce temps-là? Eh bien, en fait, c'est une entrevue de Judith Lucier avec un chanteur, guitariste qui s'appelle Bloodshot Bill, c'est son nom d'artiste. Et lui, il a décidé que c'était le rockabilly, le vrai style musical, parce que vous savez que les modes et les styles musicaux se succèdent, eh bien, lui, il a décidé que c'était le rockabilly, le vrai, qui lui convenait le mieux.
OK.
Alors, c'est quoi juste le rockabilly? Ben, c'est l'équivalent du hipster des années 50. C'est un style de musique qui a été populaire durant une très courte période, qui est un mélange de hillbilly, qui était considéré comme la musique des Blancs, et de rhythm and blues, qui était considéré comme de la musique de noir. On disait que c'était des paroles de blancs sur de la musique de noir, et comme la ségrégation raciale était très forte à l'époque, cette musique était critiquée par les plus vieux et les conservateurs. Plusieurs donnent à Elvis le crédit d'avoir marié ces deux styles, mais quand on fouille dans les vinyles de l'époque, on voit que ça se passait déjà avant lui. Pourquoi a-t-on l'impression qu'Elvis incarne à lui seul ce style? Eh bien, c'est parce qu'Elvis était le poster boy parfait pour rendre cette musique acceptable, même s'il était controversé pour certains. Beaucoup de gens voient les années 50 comme une période agréable et légère, mais il y avait aussi des choses plus sombres qui se produisaient. C'était la première fois que les adolescents avaient une voix. Elvis a donné une image aseptisée de cette époque, mais il y avait des musiciens beaucoup plus fous que lui, comme Carl Perkins, oui, Charlie Feathers et plusieurs artistes signés chez Sun Records. Après, ça a été beaucoup dilué. Les gens continuent de penser que le rockabilly, c'est de la musique de grand-père, mais en réalité, c'était très rebelle. Et ce qui attire Bloodshot Bill dans ce style, eh bien, il a été initié très jeune à ce style-là. Il a écouté beaucoup de punk quand il était adolescent, mais c'est le rockabilly qui a toujours été sa musique préférée. Étant donné que le style n'est plus aussi populaire que dans les années 50, est-ce qu'on peut gagner sa vie sur la scène rockabilly? Eh bien, pour lui, son travail, ça a toujours été ça. Il est constamment en tournée. Il donne des spectacles tout le temps. La scène rockabilly n'est pas énorme, mais si on additionne toutes les petites scènes rockabilly sur la planète, ça finit par faire une scène considérable. Évidemment, si tu t'adresses seulement au public rockabilly, ça reste limité, à moins que tu fasses À moins que tu fasses la pute dans les casinos, mais moi, je me produis aussi sur les scènes garage et punk. Et quels sont les thèmes des chansons rockabilly? Tu veux dire, est-ce que mes pièces parlent de Cadillac et tout ça? Non, j'écris au sujet des filles, des relations amoureuses, comme tout le monde, mais aussi au sujet des monstres, des extraterrestres. J'ai une chanson qui parle d'être gelée avec des martiens. Donc, l'espace est un thème qui préoccupait aussi les gens dans les années 50. Effectivement, c'est très nouveau et peu de temps après, il y a eu la première montée sur la Lune. Donc, c'était par Judith Lucier pour Urbania en collaboration avec le journal Métro. Bloodshot Bill va être en présentation au Petit Campus le 21 mai prochain. Pour plus d'infos et d'autres dates de concert, on va sur son site, le www.bloodshotbillenunmot.com.
That's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. Just any way you do. That's alright. That's alright. That's alright now, mama. Any way you do. Mama, she done told me.
That's alright. C'était That's alright, mama, de la chanteuse Ima, une reprise d'Elvis. Et moi qui croyais que c'était Jessica Simpson. Mes excuses, Ima.
Le maître d'œuvre. Oh, oui. Oui, excusez, j'allais continuer.
J'allais te présenter.
Ah, mais vas-y, présente-moi convenablement.
Ben oui. Tu nous présentes quoi?
Ah, c'était convenable, ça. C'est Philippe Soldevilla. C'est pas le metteur en scène, c'est un muraliste. Le maître d'œuvre de la murale inspirée d'Alfred Pellan au coin de Cartier et René Lévesque. C'est celui qui aura une fois de plus l'occasion de montrer ses couleurs aux gens de Québec, cette fois en faisant revivre par l'art public le mur subsistant de l'ancien cinéma Charest qui sera détruit très bientôt. C'est Camille Bévincent dans Le Soleil qui nous en parle. Une œuvre de Sol Davila ornera le mur de l'ancien cinéma Charest, publié le 6 mai dernier. Un projet d'envergure inégalée pour le muraliste Philippe Sol Davila, qui se réjouit de la totale liberté que lui a octroyée l'Université de Québec, le propriétaire du bâtiment, dans cette aventure. L'artiste se dit d'ailleurs super enthousiaste à l'idée d'entamer l'œuvre d'art qui s'étendra sur une longueur de quelques 80 mètres, soit le double de la murale de l'avenue Cartier, entre les rues Sainte-Marguerite et Fleury. Comme la murale inspirée de Pellan, les animaux seront au cœur de l'aventure de l'œuvre urbaine, le tout dans un contexte beaucoup plus narratif, explique l'artiste. Davantage complexe, le tableau mettra en scène trois ou quatre personnages dans une atmosphère plus colorée et plus joyeuse. Malgré l'ampleur du projet, Philippe Sol Davila dit ne pas vouloir en exagérer l'importance avant que celui-ci ne soit terminé, mais espère que la population de Québec saura se l'approprier. « Je m'arrange pour que les gens de Québec en aient pour leur argent, même s'ils ne paieront rien de leur poche pour ce projet. » L'objectif principal de Philippe Sol Davila lorsqu'il conçoit une œuvre est de développer la murale à Québec. Lui-même original de la capitale nationale, il s'entête à y garder un pied à terre, question d'en exploiter le potentiel artistique. Le problème, c'est l'ouverture de la ville, lance-t-il sans détour, réclamant que la ville s'y intéresse davantage. Il dénonce notamment l'absence de murs légaux où les muralistes et graffeurs pourraient développer leur art en toute légalité. La région de Montréal en compte actuellement une dizaine, alors que Gatineau agit à titre de chef de file en la matière, avec 50 murs et tunnels autorisés. Ouais. Aux yeux de Philippe Sol Davila, Québec se réveille tranquillement, mais le retard avec Montréal demeure radical. Le projet devrait être réalisé dans plus ou moins 4 semaines et se mettra en branle à la mi-juin, soit plus d'un mois après la fin de la démolition du Vétuse bâtiment. À surveiller donc l'œuvre de Philippe Sol Davila.
En bref, 8 terrasses qu'on a hâte de fréquenter en 2015 à Montréal. C'est dans le nightlife. Nightlife est très fort dans les listes d'endroits à découvrir. C'est paru il y a un mois, le 13 avril dernier. Mais rapidement, je vais parler de quelques-unes. Le Lore Beer sur la rue Laurier-Ouest, qui permet d'admirer les gens savourant une bonne bière froide. Le Benelux à Verdun sur la rue Wellington. C'est pas nécessairement une nouvelle brasserie, mais on doit bien à cet établissement sa place au palmarès, qui a maintenant officiellement son permis de bar et surtout une magnifique terrasse fermée. Le Hyatt Regency sur Jeanne-Mance, donc tout près d'ici. La terrasse du Six Resto Lounge, située au 6e étage de l'hôtel, surplombe la place des festivals. Un endroit idéal où bien manger, bien boire et surtout profiter des différents festivals cet été, sans être pris dans la cohue. Et finalement, la terrasse du Bota Bota. Si on veut être loin de tout, il y a une terrasse flottante avec sa vue imprenable sur le fleuve. Un véritable petit coin de paradis en ville.
Dans les bois francs, c'est lui qui fait le printemps. Le Festival international de musique de Victoriaville, créé il y a 31 ans pour faire découvrir au public des initiatives musicales et audacieuses, bien, ce festival propose cette année le concert Résistance de Jean de Rome, inspiré de l'hydroélectricité et du chiffre 60, qui correspond à la fréquence à laquelle l'électricité est modulée en Amérique du Nord. Pour une 6e année, on pourra aussi emprunter le circuit des installations sonores qui ouvre des brèches dans le décor de la ville pour créer des expériences sensorielles inusitées. Ça, c'est du 14 au 17 mai, tout le monde. Bienvenue à Victoriaville.
Une planche de salut pour les petites filles afghanes, parce que dans ce pays, le vélo est proscrit pour les femmes, mais rien ne leur interdit de faire de la planche à roulettes. C'est un projet de la photographe Jessica Fulford-Dobson qui a visité une ONG de Kaboul et qui a fait la promotion de l'éducation grâce à la planche à roulettes. Alors, de belles photos dans le journal Métro du week-end dernier, des petites filles afghanes en planche à roulettes avec leurs petites robes, leurs chaussures de course, les foulards très colorés. Un magnifique projet. Vraiment, c'est à voir.
Très rapidement, les finalistes jeunesse au prix des libraires ont été dévoilés. Parmi ceux-ci, en fait, c'est des prix qui récompensent des œuvres littéraires pour jeunes publics.
Cool.
Vous pourrez connaître tous les finalistes sur le site prixdeslibraires.qc.ca. Les lauréats sont dévoilés, eux, le 30 septembre.
Et rapidement, ce soir, pour ceux qui veulent aller au cinéma, il y a le film Respire de la réalisatrice Mélanie Laurent à voir. C'est en salle dès aujourd'hui. Merci, Charles, pour cette super émission. Merci, Rémi, à la mise en onde. Je vous remercie à tous, chers auditeurs. Je vous souhaite une agréable journée. On se voit la semaine prochaine.